Midi et demi, 13h, c'est le journal de la mi-journée sur Europe 1 et avec vous Fabienne Lemoelle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
C'est un peu strict, mais il vaut mieux de faire de petits sacrifices maintenant plutôt que d'avoir ces mesures plus tard encore plus restrictives.
15 millions d'Italiens dans le nord du pays, comme Ricardo, qu'on vient d'entendre, coupés du reste du pays. Plus question jusqu'au 3 avril de sortir de cette zone qui comprend Milan et Venise, sauf impératif. Nous verrons comment les autorités vont se mettre en place. Et à l'instant, le pape dit qu'il ne fait pas sa messe en public, mais via une vidéo, se dit proche des malades. En France, conseil de défense ce soir à 18h, alors qu'on recense 949 cas et 16 morts. Dans le Haut-Rhin, département le plus touché, les habitants sursollicitent le 15.
L'hôpital se sature progressivement. Tous les jours, nous sommes en train de chercher des unités supplémentaires pour accueillir ces patients.
Toujours dans le journal de la mi-journée, la Journée internationale des droits des femmes et un rassemblement hier soir à Paris marqué par des violences, les organisations féministes dénoncent l'attitude des forces de l'ordre.
Je pense que s'en prendre symboliquement à des femmes qui manifestent pacifiquement en chantant dans la rue, c'est grave pour un pays démocratique.
Grand défilé cet après-midi à Paris à partir de 14h de la place d'Italie à la place de la République. Notez que Geneviève Fraisse, philosophe de la pensée féministe depuis 40 ans, est mon invitée. Le journal des sports avec Écosse-France cet après-midi à 16h. Le grand chelem en ligne de mire pour les Bleus. Et puis la météo avec une nouvelle dépression qui arrive par l'Ouest, nous dira Valérie Darmon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'Organisation mondiale de la santé salue des mesures courageuses et parle de véritables sacrifices. Commentaire donc après la décision radicale prise cette nuit pour contenir l'épidémie de coronavirus en Italie, avec un décret signé par le Premier ministre. 15 millions d'habitants dans le nord du pays sont désormais coupés du reste du monde. Plus question jusqu'au 3 avril pour eux de sortir de cette zone, sauf impératif ou situation d'urgence. Avec moi en studio Nicolas Feldman, c'est donc une mesure radicale parce que l'Italie est de pays le plus touché en Europe avec près de 6000 cas. Ça va se traduire concrètement comment ce confinement ?
Eh bien, la mesure la plus restrictive de ce décret, elle concerne donc le nord du pays, l'un des foyers de contamination. Plus de 15 millions d'habitants, vous le disiez, sont placés en quarantaine dans une large zone qui va de Milan à Venise. Toutes les entrées et les sorties sont désormais limitées et les habitants se sont réveillés un peu ce matin perdus. Écoutez par exemple Ricardo, joint dans l'est du Piémont.
Les choses ne sont pas claires parce que les décrets disent que si je veux sortir de cette zone délimitée, les autorités ont le droit de me questionner. Mais ici, on lit qu'on a le permis d'entrée et sortie pour des raisons sérieuses. Tout le monde attend de savoir quelles sont ces raisons sérieuses de travail, de santé, ou on va voir. C'est un peu strict, mais il vaut mieux de faire de petits sacrifices maintenant plutôt que d'attendre encore à voir l'évolution et d'avoir ces mesures plus tard encore plus restrictives. Donc, on est un peu dans l'incertitude.
Fermeture des théâtres pour le reste du pays. Donc, fermeture des théâtres, des cinémas, des musées, de toutes les salles de spectacle pour lutter contre la propagation du virus. Ces fermetures entrent en vigueur dès aujourd'hui, donc, et ce jusqu'au 3 avril. Alors, les Italiens pourront toujours faire leurs courses en semaine, aller au restaurant ou sortir dans un bar, mais ils devront respecter entre eux une distance de sécurité d'au moins un mètre. Je vous le rappelle, l'Italie compte aujourd'hui plus de 6000 cas de coronavirus, avec 233 décès. C'est derrière la Chine le pays où le virus a le plus tué.
Nicolas Feldman, et je vous propose d'écouter Giuseppe Conte, le Premier ministre italien, qui expliquait cette nuit aux Italiens les raisons de cette décision.
Nous nous rendons bien compte que toutes ces mesures vont créer des difficultés, des sacrifices, parfois petits, parfois très grands. Mais il est l'heure de l'autoresponsabilité. Nous devons comprendre que tout le monde doit participer. Nous ne devons pas combattre ces mesures ou penser à être fourbes. Nous devons protéger notre santé et surtout la santé de nos grands-parents.
Voilà pour la déclaration de Giuseppe Conte, le Premier ministre italien. Donc cette nuit, pour expliquer cette décision de confinement de 15 millions d'habitants au nord de l'Italie. Alors est-ce que cette stratégie du confinement de toute une région peut être envisagée en France ? Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement, a réagi ce matin sur Europe 1.
Les Italiens ont fait des choix. Alors ils l'ont étayé hier soir du fait que manifestement leur système de santé posait des difficultés pour répondre à une propagation rapide du virus. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le choix au nord de l'Italie de confiner le territoire. Ce n'est pas le chemin que nous avons employé. Mais je vous rappelle quand même les données. 98% des gens qui sont touchés, c'est comme s'ils avaient une grippe. L'essentiel des personnes qui vont être touchées par le coronavirus seront asymptomatiques pour beaucoup d'entre eux. Et pour ceux qui sont symptomatiques, relèveront plutôt de symptômes de l'ordre de la grippe. Donc il ne faut pas non plus exagérer les effets. Après, on sait que sur des publics fragiles, en particulier les personnes âgées, ces personnes-là sont plus en sensibilité. Mais sur le reste de la population, on est sur un virus qui est pour l'essentiel bénin, il faut le rappeler.
Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement, qui était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, et alors que doit se tenir ce soir à l'Élysée à 18h un conseil de défense. Nous sommes maintenant avec Anne-Claude Crémieux, professeur de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris et auteur de « Gouverner l'imprévisible » sur la gestion justement des crises sanitaires. Bonjour.
Bonjour.
Couper le nord de l'Italie et ses 15 millions d'habitants, entre guillemets, du reste du monde, c'était la seule solution, comme ce qui a d'ailleurs été fait en Chine à Wuhan, pour contenir l'épidémie ?
Bah écoutez, en tout cas, c'est une des solutions, et vous l'avez rappelé, c'est une solution qui a été utilisée dans la province du Hubei, avec d'ailleurs une certaine efficacité. Par conséquent, c'est d'ailleurs une mesure qui apparaît dans les différents plans de réponse des différents pays à une épidémie. Et d'ailleurs, cette mesure, comme vous l'avez dit, a été saluée par l'OMS.
Quel est le principal intérêt justement de ce confinement et plus globalement, puisqu'on l'a vu, partie confinée dans le nord de l'Italie, mais fermeture des lieux publics dans le reste du pays ?
Oui, je crois que l'essentiel de ces mesures, c'est effectivement d'éviter la circulation du virus, pas seulement d'une zone géographique à une autre, mais à l'intérieur de cette zone géographique. Or, on le sait, et encore une fois, cette épidémie actuelle l'a très clairement démontré, c'est les rassemblements de personnes, et en particulier dans les lieux clos, qui sont un accélérateur de l'épidémie.
Alors justement, on l'a vu, l'Italie est le pays le plus touché en Europe. Je rappelle, 6000 cas, 233 morts. Est-ce que pour tous les pays touchés actuellement, et on pense forcément à la France, où il n'y a pour l'instant que 949 cas et 16 morts, est-ce que c'est la stratégie à laquelle on aboutira forcément d'un confinement plus large ?
Alors, ces mesures, elles vont forcément être envisagées par tous les pays. La vraie question pour les autorités sanitaires, c'est pas tant est-ce qu'un jour on les prendra, c'est à quel moment il faut les prendre et à quel niveau. En effet, si elles sont prises trop tard, elles risquent d'être moins efficaces. Si elles seront prises trop tôt, elles risquent d'être difficiles à maintenir sur un long terme. Et en particulier, il risque d'être difficile de maintenir l'activité essentielle du pays.
Et si on prend le cas demain de la France qui, dans deux départements, le Haut-Rhin et l'Oise, va fermer les écoles, c'est une stratégie aussi qui se comprend.
Alors, toutes les stratégies, encore une fois, qui visent à éviter la proximité des personnes les unes avec les autres, hein, notamment dans les rassemblements, les transports, etc. Ce conseil qui est de dire aux gens, respectez une distance entre vous, ne vous serrez pas la main, essayez effectivement de maintenir cette distance de sécurité, sont des bonnes mesures, en plus des mesures d'hygiène.
Merci beaucoup Anne-Claude Crémieux d'avoir été avec nous ce midi pour décrypter ces mesures assez radicales, on l'a dit, et qui sont donc saluées par l'OMS comme des mesures courageuses, dit l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, après la décision de l'Italie de confiner ses 15 millions d'habitants dans le nord du pays. Merci beaucoup à vous. À suivre, nous allons faire le point sur la situation en France, justement, alors qu'on approche le millier de cas. Nous serons à Mulhouse dans le Haut-Rhin. Le Haut-Rhin qui est le département le plus touché par le coronavirus en France.
Europe 1.
Il est 12h40, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle.
En France, le dernier décompte de l'épidémie de coronavirus est donc de 949 cas, 16 morts. Un conseil de défense est prévu ce soir à 18h à l'Élysée. Parmi les départements les plus touchés, le Haut-Rhin. Toutes les écoles, crèches, lycées, collèges vont être fermées pendant 15 jours à partir de demain. Le Haut-Rhin, où le standard du SAMU, le 15, est sursollicité, comme a pu le constater Marion Gauthier.
Oui, le SAMU du Rhin, bonjour.
Florian a été appelé en renfort par l'hôpital pour traiter les appels au SAMU. Ils ont presque quadruplé ces derniers jours.
Il a combien en température, madame, s'il vous plaît ?
Il faut bien distinguer le coronavirus des urgences habituelles. D'accord. Le standard était tellement débordé que deux autres salles d'appel ont été mises en place dans la semaine.
Je vais vous mettre en relation avec le médecin du SAMU, restez en ligne, s'il vous plaît.
Entre les médecins et les agents de médiation, Morissette, elle était en congé annuel, mais elle s'est portée volontaire au centre 15.
Aujourd'hui, je fais du soutien logistique pour aider mes collègues. collègues qui ne peuvent pas sortir de la régulation pour pouvoir se restaurer correctement.
Des lits supplémentaires sont aussi nécessaires. Les opérations non urgentes sont donc repoussées pour libérer des places et accueillir d'autres patients venus d'autres services pour finalement prendre en charge un maximum de cas de Covid-19. Un jeu de chaises musicales qui inquiète Marc Noiset, le chef du SAMU.
L'hôpital se sature progressivement. Tous les jours, nous sommes en train de chercher des unités supplémentaires pour accueillir ces patients qui sont souvent âgés et donc qui auront plus de difficultés que des patients jeunes à regagner leur domicile.
Et pour permettre aux soignants de venir travailler alors que les écoles sont fermées, l'hôpital devrait mettre en place une garderie pour les enfants du personnel. Mulhouse, Marion Gauthier, Europe 1.
La journée internationale des droits des femmes avec de nombreux rassemblements à travers toute la France. Pauline Jacquot, vous êtes place d'Italie à Paris, d'où va partir à 14h un défilé pour rejoindre la place de la République. Et alors qu'un rassemblement hier soir a été marqué par des violences, d'ailleurs les associations dénoncent l'attitude des forces de l'ordre. Et vous m'avez dit que c'était un argument de plus pour ceux qui sont là pour défiler cet après-midi.
Oui, effectivement, c'est une raison de plus de marcher, de se faire entendre et de s'approprier la rue, au contraire d'hier, condamne Laura de l'association On Arrête Toutes.
Je pense que s'en prendre symboliquement à des femmes qui manifestent pacifiquement en chantant dans la rue, c'est grave pour un pays démocratique. En plus, hier, c'était une marche non mixte qui était volontairement quelque chose pour attirer l'attention et reprendre le pouvoir dans la rue. Donc je pense que c'est problématique qu'on réprime avec cette violence-là ce genre de mouvement.
Alors, l'un des principaux mots d'ordre aujourd'hui, c'est bien évidemment la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. D'autant plus aujourd'hui, une semaine après la cérémonie des Césars qui a récompensé Roman Polanski, Anne Leclerc est l'une des organisatrices de la marche.
Ça galvanise énormément. Moi, j'étais au rassemblement comme des tas d'autres féministes le soir des Césars. Il y a eu une colère et une rage, notamment dès qu'on a appris la confirmation qu'il y aurait un prix pour lui. Et c'est un élément qui fait que je pense qu'il y aura beaucoup de monde parce qu'il y a vraiment une colère et une rage. Et on entend aussi des femmes qui disent « Moi, je ne suis jamais venue un 8 mars, mais là, je viens ».
Et en ce moment, les militantes et militants commencent à sortir les pancartes des camions. Et sans surprise, le désormais célèbre « On se lève et on se casse » de Virginie Despentes est très largement partagé.
Pauline Jacquot, place d'Italie à Paris. Et pour revenir sur ce rassemblement marqué par des violences hier soir, Marlène Schiappa réagit sur Twitter en disant que toutes les femmes doivent pouvoir manifester pacifiquement pour faire respecter leurs droits. Et elle ajoute que Christophe Castaner va demander un rapport à la préfecture de police de Paris pour savoir ce qu'il s'est passé précisément hier soir.
Le journal des sports.
Avec Cyril de la Morinerie. Bonjour Cyril.
Bonjour.
On commence avec du rugby, le tournoi Destination et en ligne de mire du 15 de France, évidemment, le Grand Chelem.
Oui, les joueurs de Christophe Galtier, toujours invaincus, se déplacent cet après-midi en Écosse. Et vous entendez Flower of Scantlebury.
Eh oui.
L'hymne écossais qui donne la chair de poule. Le stade Murrayfield où les Bleus n'ont plus gagné depuis 6 ans, battu également fin août, juste avant la Coupe du Monde. Mais depuis, les Bleus sont transfigurés. Et le capitaine Charles Olivon souhaite poursuivre sur cette belle dynamique.
On a joué 3 matchs. Voilà, on essaie de créer quelque chose, cette équipe. Il faut qu'on reste tous unis. Et il ne faut pas qu'on chamboule tout. Il faut simplement qu'on continue d'appliquer ce qu'on fait et qu'on puisse être à un certain moment imperméable à ce qui se passe autour.
Voilà, Charles Olivon avec Simon Rubin, notre envoyé spécial en Écosse qui nous fera vivre en fil rouge sur Europe 1 cet après-midi, cette Écosse-France, coup d'envoi 16h, des Français actuellement à égalité. On le rappelle au classement avec l'Angleterre qui a battu hier le Pays de Galles.
Le football, 28e journée de Ligue 1, bonne opération pour Reims et Nice.
Oui, le stade de Reims, 5e de Ligue 1, est pratiquement assuré de son maintien après son succès 1-0 contre Brest. Nice, 6e du classement, bat son voisin Monaco 2-1 grâce à un doublé de Kasper Dolberg. Bonne opération pour le maintien pour Metz, victorieux de Nîmes 2-1. Toulouse, plus que jamais dernier, défaite à Dijon 2-1, Angers bat Nantes 2-0. Cet après-midi, Saint-Étienne-Bordeaux, Rennes face à Montpellier et la grande soirée foot sur Europe 1 dès 20h avec Lionel Rousseau autour du choc Lille face à Lyon.
Et puis Cyril, si le PSG n'a pas joué à Strasbourg vendredi dernier, match reporté en raison du coronavirus, son adversaire en Ligue des Champions, lui, s'est imposé hier.
Oui, le Borussia Dortmund, toujours en grande forme, s'impose 2-1 sur le terrain de Mönchengladbach. Hier, les Parisiens se sont entraînés avec Thiago Silva qui espère jouer mercredi les 8e de finale retour de la Ligue des Champions.
Et puis la Ligue de France féminine remporte le premier tournoi de France.
Victoire des Bleus, en effet, succès contre le Brésil hier soir 1-0, but de la tête de Valérie Gauvin. Deuxième victoire après celle obtenue contre le Canada à la grande satisfaction de la sélectionneuse Corinne Diacre.
On est tombé face à un adversaire solide. On a su trouver les ressources pour les battre sur cette deuxième mi-temps. Maintenant, il ne faut pas se tromper d'objectif. C'était simplement un match amical sur un tournoi amical. On sait aussi que nous, cet été, on sera chez nous. Donc, on reste humble par rapport à ça.
Voilà, propos recueillis par Sébastien Boé. Les Bleus joueront contre le Pays-Bas mardi à Valenciennes, mais n'iront pas en effet disputer les Jeux Olympiques cet été.
Le cyclisme avec la 78e édition du Paris-Nice qui s'était lancée ce matin malgré le coronavirus.
Oui, une semaine donc, 8 étapes, plus de 1200 km pour rejoindre la baie des Anges. Première explication aujourd'hui dans la vallée de Chevreuse. Autre impact lié au coronavirus, le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn se tiendra à huis clos du 20 au 22 mars prochain.
Merci beaucoup.
Et puis, juste pour terminer, oui, un petit mot sur le ski alpin. Le Super G en Norvège annulé ce matin en raison de la météo. Et donc, c'est une bonne affaire pour Alexis Pinturo. Il ne reste plus que deux courses à disputer, un géant puis un slalom le week-end prochain en Slovénie. Deux disciplines dans lesquelles le skieur de Courchevel excelle.
Merci beaucoup, Cyril de la Moridrie. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à ArcadB. ArcadB vous présente la météo.
Et la calmie aura été de courte durée puisque vous nous dites, Valérie Darmon, qu'une nouvelle perturbation bien pluvieuse est arrivée ce matin sur le nord-ouest.
Effectivement, une nouvelle perturbation liée à une dépression qui traverse les îles britanniques et qui apporte des pluies dans tout l'ouest de la France va traverser le pays. Les régions de l'est sont plus au calme et surtout sous une meilleure luminosité jusqu'à ce soir. Le ciel va donc devenir de plus en plus menaçant au fil des heures, donnant de la pluie désormais cet après-midi en Champagne, dans les Ardennes et en Alsace en fin de journée. Sur le bassin parisien, les pluies viennent d'arriver, elles vont se poursuivre jusqu'en milieu d'après-midi avant le retour de quelques éclaircies timides. Le ressenti est automnal, les températures sont dans les normales de saison, 10 annoncés à vos thermomètres à Aurillac et Reims cet après-midi, 11 à Chartres et Orléans, 12 à Angoulême et Paris, 13 à Nancy, Nevers et Colmar, 14 à Agen, 15 degrés à Nice et à Lyon ainsi que Clermont-Ferrand et 18 à Avignon.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, on le disait dans ce journal, plusieurs manifestations à travers toute la France aujourd'hui pour cette journée internationale des droits des femmes. La philosophe Geneviève Fraisse qui décrypte depuis 40 ans la pensée féministe est mon invitée dans un instant.
Midi 50, le journal de la mi-journée se poursuit avec votre invité Fabienne Lemoelle.
Et en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, j'ai donc le plaisir d'accueillir une philosophe qui depuis 40 ans questionne la pensée féministe. Elle a aussi été déléguée interministérielle des droits aux femmes. Elle publie au Seuil la suite de l'histoire, actrice, créatrice et un recueil inédit d'essais chez Folio, féminisme et philosophie. Bonjour Geneviève Fraisse.
Bonjour.
Beaucoup de questions à vous poser, mais d'abord, j'ai envie d'entendre votre réaction à la cérémonie des Césars, c'était il y a à peine une semaine. Romane Polanski récompensé, l'actrice Adèle Haenel qui quitte la salle en disant quelle honte, et depuis surtout cette avalanche de témoignages de femmes victimes de viols, d'agressions sexuelles, de harcèlement, avec un hashtag « Je suis victime », ça témoigne de quoi ?
Alors, d'abord, sur Adèle Haenel, elle continue ce qu'elle a initié et qui a aussi été initiée parmi tout il y a maintenant 2 ans et demi, c'est-à-dire passer cette parole dans l'espace public, et pas de manière individuelle, mais de manière soit collective avec MeToo, moi aussi, soit individuelle, mais dans le siège de MeToo, pour relancer cette parole collective. Et ça donne le hashtag où je crois qu'il y a
80 000 témoignages.
Témoignages en très peu de jours, en 24 heures, ou je ne sais plus. Alors, ce qui est important de noter aussi par rapport à MeToo et par rapport à ces témoignages, c'est ce qu'on peut appeler le récit. Ces femmes vont faire un récit. Dire pas seulement une plainte, mais dire « voilà ce qui m'est arrivé ». Donc, reconstruire la scène qui a eu lieu. Donc là aussi, c'est montrer dans quel espace de nos sociétés ça se passe. C'est pas seulement l'acte qui est pointé du doigt ou dénoncé, mais aussi dans quel univers ça s'est passé, donc dans quel univers nous vivons.
Vous, qui il y a encore 2 ans, présentiez ce mouvement MeToo comme une réappropriation de leur corps par les femmes, vous qui disiez aussi, ce n'est pas la libération de la parole, mais la prise de la parole, vous vous dites, la route est longue, que cette parole, on a du mal à l'écouter, pour qu'il y ait aujourd'hui ce hashtag « Je suis victime ».
La route est longue et l'histoire aussi est longue. Alors, la réappropriation du corps, elle a eu lieu, disons, au 19e ou 20e siècle aussi, mais je dirais plus sur une addition de droits individuels. Le droit au divorce, le droit à la contraception, à l'avortement, ça c'est bien, il s'agit bien du corps. Mais c'est chaque fois comme une addition des corps. Ce qui se passe avec le moi aussi, c'est ce que j'appelle moi, dans féminisme et philosophie, le corps collectif. Dans nos sociétés démocratiques, de contrat social, il y a cette mise à disposition du corps des femmes. Et là, le pluriel est donc important, mais un pluriel qui est un ensemble. Et bien sûr que c'est, comment dire, c'est neuf.
On est dans quel moment de l'histoire du féminisme, vous qui êtes, Geneviève Fraisse, la philosophe de la pensée féministe ?
Ah ben, c'est sûr que ce qui se passe jusqu'à la fin du XXe siècle, c'est ce que j'appelle le cycle de droit, civil, politique, économique et même familial. Et là, l'égalité rentre dans tous ces espaces. L'égalité des droits, c'est que nous avons la même raison que vous. Et là, c'est le corps au XXIe siècle qui sort. Avant l'arrivée de MeToo, je me disais le XXIe siècle, c'est le siècle du corps et non plus de la raison des femmes, mais je le voyais à travers l'histoire de la reproduction, qui est en pleine effervescence, avec débat sur la GPA, autorisation de la PMA.
Plus près de nous.
Et puis arrive l'affaire MeToo, pour mon plus grand plaisir, je ne le cache pas.
Ce qui est passionnant dans votre parcours, c'est que vous avez éprouvé sur le terrain ce que vous étudiez comme objet, en étant par exemple délégué interministériel aux droits des femmes pendant
un an,
en 1997. Ce passage à la pratique, vous en gardez quoi aujourd'hui quand on voit le sexisme en politique? Je dis ça parce qu'il y a eu un rapport cette semaine du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes sur l'état du sexisme en France, qui épingle particulièrement les hommes politiques. Ça passe par des bruits de poule dans les travées quand une femme prend la parole jusqu'aux mimiques et au rire. Et la présidente du Conseil dit même des archaïsmes de sexisme très violents et très forts.
Alors, un, c'est vrai. Deux, bon, moi, je suis arrivée en politique, malgré moi, j'ai envie de dire, on est venu me chercher, j'ai joué le jeu. Donc, je suis effectivement celle qui, d'un côté, pendant 7 ans, a vu le monde politique et qui, par ailleurs, connaît bien le monde intellectuel, à la fois pour en être issue et pour y avoir fait ma vie professionnelle. Alors, moi, j'ai eu un retour en 2004 de ces 7 années de vie politique en pensant que, finalement, le sexisme le plus violent était dans le monde intellectuel et pas dans le monde politique.
Pourquoi ?
Ben parce que, dans politique, on vous dit « pousse-toi de là que je m'y mette ». Au moins, c'est clair, c'est simple. Tandis que dans le monde intellectuel, on est tous d'accord, on fait tous des choses intéressantes. Et alors, les croche-pieds sont formidables.
Vous-même, vous avez été confronté à ça ?
Non, tout le temps. Donc, moi, je pense que le sexisme est très fort dans le monde intellectuel, parce que l'enjeu est symbolique, encore plus symbolique que le pouvoir politique, puisque c'est la pensée. Tandis que dans le monde politique, il y a quelque chose de basique. Pousse-toi de là que je m'y mette. Ça pourrait être ma place, là, c'est ta place maintenant.
Pourtant,
mais
il y a
demain,
la
sera
loi
la
sur la parité.
Mais la loi sur la parité ne dit pas plus que ça. Elle touche pas au symbolique, la loi sur la parité. Elle est mécanique. Ça me permettra de dire un mot sur le sexisme, puisque j'ai vu aussi ce rapport. J'ai vu aussi que le Conseil de l'Europe avait redéfini le sexisme avec le mot infériorité. Or, le sexisme traverse les siècles. Le sexisme, c'est de la disqualification.
C'est-à-dire?
Vous n'êtes pas de la même qualité que moi. Hein, je me mets sous le parapluie aristotélicien. C'est une différence de substance. Nous ne sommes pas de la même substance. Pour finir, le Conseil de l'Europe a pris le mot « infériorité ». Il est mieux que « discrimination » parce qu'il renvoie moins à simplement de l'injustice, mais je trouve que le mot « infériorité » il est biface. Tandis que mon mot « disqualification », c'est simplement « désolé, on n'est pas du même monde, quoi ». Et c'est humiliant, parce que l'infériorité, on a envie de dire bah, « attends, tu dis que je suis inférieur, mais attends, je vais te montrer que je suis ton égal ». Tandis que si je suis disqualifié, on me dit, bah, comme en sport ou ailleurs, bah non, tu ne courras pas avec moi.
Je le disais, l'année a été marquée par le Grenelle des violences conjugales avec l'émergence de ce mot de féminicide. Pour vous, la philosophe, ce mot est important ?
Alors oui, ça renvoie au système. Et là, avec le mot féminicide, on rentre dans le système, donc quelque chose qui appartient à l'histoire. Et non pas seulement à la relation entre X et Y. On s'est toutes beaucoup battues pour faire enlever l'aspect passionnel des analyses faites autour de cela. Donc féminicide, ça veut d'abord dire cela. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est quand la langue change. C'est comme vendredi soir, il y a toujours des gens qui crient tout de suite au scandale. Ils veulent que l'histoire s'arrête, là où ils en sont, eux.
Là, vous revenez à la cérémonie des Césars.
Pardon, oui, mais ça se rejoint, si vous voulez. Parce que pour moi, le fait qu'on ait pu mettre en avant les féminicides, ça touche à la question MeToo. Vous parliez de mon année de déléguée, c'est là où j'ai découvert, donc on était en 97, ça fait plus de 20 ans, qu'il y avait bien un meurtre tous les 2 jours et demi. Comme maintenant, ça n'a pas bougé. Mais c'était absolument inaudible. Il y a beaucoup de sujets que je connaissais, la parité notamment, etc., l'égalité professionnelle, mais pas cet état de violence. Et donc, MeToo a permis aussi de mettre en lumière ces féminicides, d'en montrer le caractère à la fois structurel et historique. Et maintenant, ce qui est tragique dans ces histoires, c'est que ces femmes qui se font tuer n'ont pas les moyens économiques que nous avons, moi, les actrices, pour parler comme je suis en train de parler des violences sexuelles ou des violences à l'encontre des femmes, sans que leur situation économique soit menacée. Elles ne sont pas en situation économique de partir à l'autre bout de la France si elles veulent quitter un homme. Et si elles quittent un homme sans passer chez un autre homme, ça, c'est un crime de lèse-majesté.
Je vous reçois, Geneviève Fraisse, à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes. Est-ce que cette date du 8 mars a toujours un sens, une mise en lumière comme ça, une journée par an ?
Alors d'abord, ce n'est plus une journée par an. Vous voyez, là, ça dure toute la semaine. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, c'est-à-dire qu'on essaye justement de sortir sur le doublon de la fête des mères. On a envie de donner de la place à cela. Alors, une petite note positive dans la violence du sexisme qui traverse les siècles.
Merci beaucoup Geneviève Fraisse d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Et pour prolonger cet échange, je rappelle vos deux livres. Au seuil, la suite de l'histoire, actrice, créatrice et un recueil inédit d'essais en poche chez Folio, féminisme et philosophie. Vous le savez, à 13h, nous poursuivons cette tranche d'information avec les carnets du monde de Sophie Larmoyer et les femmes seront encore à l'honneur. Europe 1.